une émission de littérature sur Radio Campus Orléans. Nous sommes en direct par téléphone avec Monique Atlan et Roger Paul-Droit. Nous parlons de Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, parue aux éditions Flammarion, qui coûte 22,90 €. Bonsoir Monique Atlan, bonsoir Roger Paul-Droit. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, une première question tout d'abord. On va commencer brut de pomme. Je me suis demandé, en lisant le début de votre livre, si vous aviez commencé votre enquête du côté de ce qui vous faisait le plus peur, à savoir le transformation de l'espèce humaine, quasiment le transhumanisme, pour après justement chercher à atténuer, à responsabiliser cet en avant de la technique. Est-ce que c'était ça votre interrogation première qui vous a fait débuter votre enquête à tous les deux?
Oui, bravo, gagné. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée même de ce livre, il est né des peurs que nous pouvions éprouver, mais que finalement chacun d'entre nous éprouve plus ou moins à travers une forme de fascination aussi qu'exerce l'ensemble des techniques de la génétique, des biotechnologies, des reproductions artificielles, de l'augmentation de l'humain avec de l'informatique et X. Prothèses, et tout cela nous a conduit à la question finalement, est-ce que on va changer d'humanité? Est-ce que l'on est au bord, comme nous le dit Marcel Gaucher, d'une rupture anthropologique, ou est-ce que finalement on se raconte des histoires pour se faire peur et on est finalement dans une vraie mutation, mais pas beaucoup plus décisive que la roue, l'imprimerie et finalement ces changements que l'humanité a déjà vus.
Moi, je pourrais ajouter que, vous savez, on a fait cette enquête et ce livre pendant 2 ans, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a à peine 2 mois, en fait en décembre plus exactement 2011, il y a un sondage qui a été effectué à la demande du Comité national d'éthique à l'occasion de ces journées annuelles, concernait la perception que les Français ont de la science. Si je vous raconte ça, c'est qu'effectivement, ça revient à votre première question sur est-ce qu'on avait peur. Mais en fait, nous ne sommes pas les seuls. Et ce qu'il y a de très intéressant dans ce sondage, qui en fait, bien longtemps après, croise un peu et confirme peut-être le possible intérêt de notre projet, c'est qu'en réalité, 53% des Français considèrent qu'ils sont insuffisamment informés des avancées de la science et des enjeux éthiques qui en découlent. Et 70% des Français souhaiteraient être un peu mieux informés. Et en réalité, ces 53%, c'est sans doute la raison qui fait que le manque d'information crée les peurs. Et ce que nous avons eu envie de faire, c'est effectivement de dénouer ces peurs éventuellement, en tout cas de faire le tri entre les fantasmes et la réalité, entre ce qu'on se raconte, ce qu'on a envie de se raconter et ce qui se passe réellement dans les laboratoires, sur les campus où se trouvent les chercheurs dans le monde entier.
Mais ces peurs ne sont-elles pas aussi culturelles? Si on ressent en France, notamment suite au sondage dont vous parlez, cette peur vis-à-vis de la technique ou de cette transformation du corps, peut-être que ce ressentiment de cette peur face à cette même problématique est différente aux États-Unis, par exemple, ou elle est différente peut-être en Asie.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas une partie importante, mais une partie seulement des chercheurs américains qui sont dans cette idée que tout ce qui est faisable finalement doit pouvoir être expérimenté et que tout ce qui va augmenter les capacités humaines, la pointe extrême de cela c'est évidemment le transhumanisme et son pape, si j'ose dire, Ray Kurzweil, que nous sommes allés voir à Boston, qui rêve, je crois qu'il y a une part de rêve, bien que ce soit un vrai et grand technicien, mais qui rêve un jour, assez proche selon lui, dans les années 2035 ou 2040, de pouvoir modéliser suffisamment le cerveau humain pour que chacun, ou en tout cas ceux qui auraient les moyens, c'est une autre un autre problème, parce qu'il y a le risque d'une humanité, évidemment, là, à deux vitesses, que ceux qui auraient les moyens de faire ça se transportent leur conscience dans un disque dur et se retrouvent dans une forme d'immortalité entièrement, finalement, débarrassée de la vieille enveloppe corporelle, avec tous les avantages possibles que ça peut avoir, évidemment aussi avec tous les inconvénients.
Alors, vous faites dans votre prologue un triple constat. Je vais lire ce petit passage où vous faites ce triple constat. Je vous lis. Le projet de cette enquête est donc né du rapprochement de ces trois premiers constats. 1. L'humain pourrait être transformé radicalement par les moyens d'action des technologies actuelles. 2. Les débats concernant les choix, les enjeux et les limites mobilisent des représentations divergentes de l'humain. 3. Les philosophes modernes ont dans l'ensemble délaissé ces questions, alors même qu'elles se révèlent cruciales. Donc vous partez de ce triple constat.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de changement. Et puis, il y a aussi toutes les frontières qui bougent. C'est-à-dire que les manières dont on définissait autrefois l'être humain sont en train d'être retravaillées par les exigences, par les avancées même des sciences et des techniques, au moment où on a besoin d'avoir, pour poser des bornes, une image claire et nette de l'humain.
En réalité, le plus important, à mon avis, c'est que c'est effectivement cette révolution biologique moléculaire qui maintenant date d'il y a un siècle, qui a posé cette unité du vivant, hein, entre le minéral et le végétal et l'animal et l'humain. Il n'y a pas de différence, en gros, de matériaux. Et effectivement, cette révolution biologique, additionnée à la révolution des nanotechnologies, additionné à l'explosion des sciences cognitives qui rêvent de rendre notre cerveau tout à fait visible et peut-être même maîtrisable de cette façon, et le tout, si l'on peut dire, potentialisé par la révolution numérique, donne cette situation tout à fait inédite d'une possibilité tout à fait neuve d'intervenir dans la nature, dans la fabrication de la nature, et non plus seulement, comme dans les siècles précédents, de s'y soumettre en essayant, effectivement, d'avancer dans les progrès de la science, mais pas avec ce projet de dépasser la nature.
Alors, vous avez donc posé votre projet pour faire ce livre. On a parlé de cette peur, puis de ce triple constat. Maintenant, vous aviez plusieurs choix. Vous auriez pu faire un livre de vulgarisation tel qu'on en voit assez fréquemment, mais vous deux, vous avez choisi de faire une enquête. Vous dites enquête philosophique, on pourrait presque dire enquête philosophique et journalistique. Une enquête où vous interviewez des personnalités, comme ça se fait pour des enquêtes, sauf que vous laissez apparaître les interviews. Donc là, vous avez fait un choix décider, et c'est ce qui fait l'originalité de votre démarche. Du coup, pour moi, ma question, c'est quelle est cette idée de mener une enquête journalistique sur un sujet qui, d'habitude, ne s'y prête pas?
Oui, mais parce que je crois que, d'abord, le projet était quand même très ambitieux, se poser cette question-là comme ça, de façon frontale. Est-ce qu'on est face à une rupture par rapport à l'histoire traditionnelle de l'humain, c'est pas une question simple. Évidemment qu'on ne pouvait pas faire cela tout seul, et évidemment que nous avons souhaité être accompagnés dans nos réflexions, et donc c'est forcément par l'enquête journalistique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a très vite vu que toutes ces personnes qu'on a rencontrées, qui sont toutes de très grande qualité, n'étaient pas forcément d'accord entre elles, et qu'on se trouvait finalement, d'une certaine façon, devant des carrefours de pensée, hein, et désigner des carrefours de pensée que nous avons souhaité arpenter. Et au bout du compte, si vous voulez, effectivement, on peut dire enquête journalistique, on peut dire voyage philosophique, mais moi, je pourrais dire aussi, d'une certaine façon, roman. Un roman, parce que chacun de ces scientifiques devient personnage de cette grande aventure qu'on essaye de décrire.
Roger Paul-Droit, vous voulez intervenir?
Comment?
Est-ce que vous vouliez intervenir?
Je voulais dire qu'il y a trois fils principaux qui sont tressés dans ce récit ou dans ce gros livre. Il y a d'abord un fil d'information, c'est-à-dire que nous ne sommes ni l'un ni l'autre des scientifiques, et nous avons dû découvrir à mesure ce que sont les nanotechnologies, ce que l'on sait aujourd'hui du cerveau, en quoi consiste l'intelligence artificielle, ou bien comment s'est mise en place le réseau d'Internet. Toutes ces questions-là, bon, on a lu beaucoup de choses, on a consulté beaucoup de sites et on a essayé, à partir de ce que nous comprenions, de l'expliquer le plus clairement possible à ceux qui n'étaient pas au fait de ces questions. Le deuxième fil, eh bien, ce sont tous ces 50 interlocuteurs que nous avons, parce que c'est l'idée d'enquête, vous savez, c'est aussi que il me semble que la complexité des questions philosophiques que soulèvent ces mutations ne peut pas se résoudre à travers une spéculation isolée, un penseur tout seul dans sa chambre. Je crois que nous avions d'abord besoin d'aller rencontrer des généticiens, des biologistes, des sociologues, des anthropologues, pour comprendre comment eux, à partir de leur discipline, voyaient la question et aussi les désaccords qu'il y avait entre eux. Et ensuite, le troisième fil, c'est que nous avons essayé, alors cette fois de façon peut-être plus personnelle, plus réflexive, non pas d'imposer des points de vue ou de tirer des leçons définitives, mais plutôt d'ouvrir des perspectives, des pistes de réflexion. Et finalement, notre souci, si vous voulez, c'est que les lecteurs puissent savoir quels sont les enjeux, quels sont les carrefours de pensée et les débats, et les outils possibles d'analyse, et qui forgent non pas forcément ce que nous pensons, nous, mais leur propre réflexion.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, cette transversalité que Roger Paul vient de décrire à travers tous ces champs du savoir, qui d'une certaine façon avaient fini par un peu trop découper chacun dans leur domaine, dans le réel et dans la figure de l'homme. Et cette transversalité-là est le gage pour nous d'une possibilité de renouvellement de la question. Et ce que nous souhaitons faire aussi, c'est arriver à faire tout ça en un seul livre. Parce que, au fond, ce livre, souvent je le dis, c'est que c'est en fait pour ceux qui sont curieux de leur siècle, évidemment, et pour ne pas se sentir largués dans le siècle qui vient, dans les temps qui viennent. Car je pense qu'on ne peut plus faire l'économie de ces outils d'information, de ces outils de connaissance, pour pouvoir réendosser nos responsabilités à l'égard de tous les débats qui se posent à travers ces avancées de la science.
Votre titre, c'est « Humain et non pas homme », parce que vous établissez une distinction importante qui couvrira tout le livre, cette différence, enfin ce passage de l'homme à l'humain.
Oui, ce passage, alors évidemment, on peut discuter toujours les mots. On a choisi finalement de symboliser le passage par le changement de terme de homme à humain, mais après tout, ça correspond vraiment, je crois, à quelque chose qui est un changement de représentation. L'homme était au centre de l'univers, l'humanisme classique faisait de lui la clé finalement de toutes les choses, et surtout on voyait très clairement comment il était délimité, de quelles frontières il relevait entre le corps et l'esprit. La frontière paraissait bien nette. Entre l'homme et l'animal, il y avait des mondes différents. Entre le vivant et l'inerte, il y avait aussi une claire frontière. Et puis, le passage à l'humain, c'est finalement le fait que toutes ces frontières se trouvent non pas annulées, mais elles sont brouillées, elles sont estompées, elles sont travaillées par les sciences qui, de plus en plus, nous disent que nous sommes faits des mêmes particules que n'importe quel objet du monde. Elles transforment aussi notre rapport à l'animal, qui apparaît comme étant notre semblable, sinon notre frère. Et de la même manière, il y a longtemps que l'astrophysique nous a chassés du centre de l'univers. Donc, ce que nous voulons dire dans ce passage de homme à humain, c'est que toutes ces frontières sont bouleversées, que cependant, il ne faudrait pas, en quelque sorte, croire qu'elles sont simplement annulées, et puis que la figure de l'homme, comme disait Foucault, ayant disparu, toute humanité serait niée, supprimée, annulée, parce que ça, c'est aussi finalement la barbarie ou la sauvagerie.
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait peut-être, effectivement, s'il fallait reformuler, on pourrait aussi parler de ce qu'on a essayé de, voilà, cette expression qu'on a retenue, c'est-à-dire il faudrait maintenant parler d'un humanisme décentré, décentré de sa place centrale, justement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement un paradoxe à relever, c'est que c'est au moment même où l'humanisme se trouve décentré qu'en raison des moyens décuplés qu'offre la science, cet homme-là, cet humain-là, se trouve en charge d'une responsabilité élargie, d'autant plus forte, alors même qu'il n'a plus la place centrale qu'il avait au départ.
Parce que, au fur et à mesure de votre enquête, on comprend aussi que l'homme est complètement décentré actuellement par la possibilité de création d'une intelligence artificielle et par la possibilité de la transformation de l'espèce. C'est ce que prône le transhumanisme.
Oui, bien sûr, le transhumanisme rêve de ce que Ray Kurzweil appelle une humanité 2.0, de même, enfin, c'est-à-dire une seconde étape où l'ensemble de nos capacités psychiques, intellectuelles, organiques seraient profondément transformées, métamorphosées par la technique et par les capacités nouvelles que nous donneraient aussi bien des formes de fusion avec les ordinateurs que de transformation de notre psychisme. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est une forme de résurgence à l'intérieur du monde de la technique, de vieux mythes de salut. Alors, ce qui fait peur à certains et terrorise au contraire, pour la pointe des transhumanistes les plus extrémistes, apparaît comme une libération et comme une forme de salut nouveau. Mais c'est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à une eschatologie. Et ce qui nous intéresse, nous, plutôt, à titre personnel, c'est, bien que nous ayons rencontré toutes sortes, encore une fois, de partisans comme d'adversaires de ces courants, c'est que on cherche plutôt à sortir de la technophilie salvatrice comme de la technophobie apocalyptique et terrorisée en se demandant au cas par cas où sont les risques et où sont les espérances.
Ça fait deux fois que vous me parlez de Ray Kurzweil. Effectivement, il est important dans votre livre. Vous avez pu le rencontrer et donc l'interviewer. Avant cette rencontre avec lui, quelle image aviez-vous de Ray Kurzweil ?
Oh, bah, probablement, effectivement, celle d'un uluberlu.
Oui, parce que vous aviez lu Humanité 2.0.
Un peu prophétique, et puis qui vend énormément de livres aux États-Unis. Il cumule les best-sellers. Mais en réalité, c'est un homme tout à fait, d'abord charmant, très drôle, qui a une allure d'artiste et non pas de technicien. Vous savez, c'est lui qui a inventé tous les systèmes de reconnaissance vocale, qui a fait des différentes machines que Stevie Wonder ou d'autres musiciens utilisent. C'est quelqu'un qui a une histoire personnelle qui effectivement semble l'avoir conduit sur ces routes-là. C'est simplement que son père, auquel il était extrêmement attaché, est mort d'une maladie qui, au fond, dont il aurait pu être sauvé, soigné quelques années plus tard. Et donc, il s'est donné comme projet, effectivement, d'imaginer que c'est par la médecine que l'on pourra, et les nanotechnologies et tout ce qui s'ensuit, qu'on pourra prolonger la vie. Le maximum, c'est pas atteindre forcément l'immortalité, mais en tout cas, prolonger la vie. Mais, si vous voulez, ce qui motive Ray Kurzweil, c'est aussi, et au fond, là, on peut pas lui donner forcément tort, c'est aussi le constat pour lui d'un échec de l'humanisme au XXe siècle. et avec son cortège de massacres, de génocides. Et là, on ne peut pas dire qu'il ait tort. Et effectivement, l'humanité et l'humanisme a à se poser des questions, à faire son autocritique. Maintenant, est-ce que les réponses qu'il souhaite apporter à ce questionnement sont justes? Je ne crois pas qu'on puisse les partager si facilement que ça. Voilà.
Je voudrais continuer avec ce voyage aux États-Unis que vous avez fait. Vous avez rencontré différentes personnalités. Il y en a une qui m'a sauté aux yeux, c'est Douglas Melton. Et j'ai trouvé un point commun avec Rakersveil, même s'ils ne travaillent pas avec la même arrière-pensée ni avec les mêmes idées et les présupposés techniques. C'est cette rupture biographique, à la fois pour Rakersveil, vous venez d'en parler avec la perte de son père, et Douglas Melton, lui, c'est ses deux enfants qui ont une maladie. Et du coup, ça a réorienté complètement ses recherches et ça a été une motivation pour ses recherches.
Oui, mais ça montre, je crois, une chose centrale, c'est que les êtres humains qui font des recherches restent des êtres humains. Ce ne sont pas simplement de pures machines à réfléchir ou à chercher ou à penser. Rakersveil est visiblement à la recherche de son père disparu et ne rêve que d'arriver un jour dans un disque dur à le rejoindre ou à le retrouver. Et Douglas Melton a eu ses deux enfants ayant un diabète gravissime et a réorienté toute sa recherche de reprogrammation cellulaire pour que son travail de chercheur, espère-t-il, donne une espérance de vie à ses enfants plus grande. Et c'est un des grands... il a été... plusieurs fois, honoré par la science américaine comme par la presse. C'est un des grands spécialistes de ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire. Ça veut dire que avec, si je simplifie beaucoup et je schématise, mais avec une cellule de la peau, par exemple, prise dans votre bras ou à votre poignet, il serait possible de transformer ces cellules en cellules d'autre chose, de foie, de rate, de pancréas pour fabriquer de l'insuline. Autrement dit, il serait à terme, et il a déjà fait des pas avec succès dans cette direction, possible de modifier des cellules existantes en cellules d'autres organes et de permettre à ces organes de s'auto-réparer.
Est-ce que c'est en allant aux États-Unis rencontrer ces chercheurs-là que vous avez pris conscience de la différence de point de vue des scientifiques entre les États-Unis et la France ou l'Europe en général? Parce que dans ce même chapitre, on trouve Joël de Ronay, le français, qui vulgarise ces idées biotechnologiques, mais il a l'air assez isolé par ses préoccupations en France.
La frontière est si forte et si rigide. Effectivement, Joël de Ronay nous a parlé de choses qui, au fond, sont tout à fait impressionnantes, à savoir tout ce courant de ce qu'il appelle les bricoleurs du vivant. Hein, tous ces jeunes qui, actuellement, rivalisent d'audace en faisant des reconfigurations avec des séquences d'ADN qu'on peut acheter, vous ou moi d'ailleurs, pas cher, sur Internet, et en les associant pour en prélevant un ADN d'un organisme mono ou pluricellulaire et en le réassociant à un autre organisme pour créer quelque chose qui serait tout à fait inédit. Or, il y a quelques années, en 2003, ces jeunes étudiants étaient une centaine. Maintenant, ils sont des milliers. Donc, effectivement, ça se passe plutôt aux États-Unis, mais pas seulement. De nombreux étudiants et chercheurs français participent à ces concours qu'on appelle l'IGEM, qui se tient chaque deux ans. Et il y a beaucoup d'étudiants de tous les pays du monde. Et donc, si vous voulez, effectivement, que la science française se donne peut-être des objectifs plus précis. Moins grandiose. Mais en réalité, les chercheurs, d'abord, il y a une sorte de course dans la science contemporaine où les laboratoires, les enjeux financiers sont énormes. Donc les chercheurs sont presque d'une certaine... Il leur est pratiquement imposé de rentrer dans cette compétition et dans cette course. Mais effectivement, en tout cas au niveau des discours, il y a une certaine différence, il y a des nuances entre l'attitude américaine qui se veut tout à fait ouverte. Douglas Milton nous l'a dit, on pourra en finir avec la mort. Freeman Dyson ne voit le physicien de Princeton, maintenant qui est très âgé, ne voit aucune difficulté à faire toutes les expériences possibles et imaginables et compte sur la capacité d'autorégulation des scientifiques pour ne pas, en gros, dépasser les bornes. Si vous voulez, c'est plus à ce niveau-là, c'est sur, si vous voulez, cette sorte d'attitude par rapport à un principe de précaution qui poserait des limites au jeu. Effectivement, aux États-Unis, la limite du jeu est très, très, beaucoup plus lointaine que celle qu'on peut se poser au niveau européen.
Alors, j'ai pas le droit.
Ben, il me semble qu'il y a, je voudrais peut-être intervenir sur une différence de modèle, plus que simplement, il y a des différences d'éthique, évidemment, il y a des sensibilités peut-être qui sont un peu distinctes, mais je crois qu'il y a quelque chose, alors là, qui nous est apparu clairement et qui traverse aussi bien l'Europe que les États-Unis, c'est une différence de conception du cerveau. Ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel et finalement important, ou bien on s'imagine que notre cerveau est une machine à calculer. Et dans ce cas-là, on va avoir, et c'est finalement la pente Kurzweil et d'autres, on va avoir la possibilité de le modéliser, de le reproduire et en quelque sorte à ce moment-là de fabriquer véritablement une machine à calculer qui serait comme notre propre cerveau. À l'inverse, aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis, s'oppose à cela aujourd'hui l'idée d'un cerveau organique, affectif, émotif. C'est par exemple Antonio Damasio ou c'est Jean-Didier Vincent, Damasio en Californie, Jean-Didier Vincent en France, qui au contraire insiste sur l'ancrage de notre cerveau avec notre corps et nos organes. Et cela, finalement, on ne peut pas à ce moment-là, on ne pourrait pas simplement l'inscrire dans dans du Sicilium, quoi.
Alors, nous avons parlé beaucoup là de ces deux premiers grands chapitres qui sont la fabrique du corps et puis la machine pensante. Très logiquement, votre enquête progresse très logiquement. Il faut le dire que votre enquête progresse très très logiquement. On en arrive à cette troisième partie, le cerveau visible. Parce que vous rencontrez ces professeurs, ces savants, ces philosophes, et je me suis aperçu que nombre de scientifiques, à moi, m'étaient en tout cas inconnus. Pourtant, je m'intéresse à la vulgarisation scientifique. Et là, vous avez fait une rencontre merveilleuse, moi qui m'a paru très très belle, avec Pierre-Marie Liédot. Ça se passe à l'Institut Pasteur. Cet homme travaille sur le cerveau. Quand vous rencontrez comme ça des scientifiques qui sont inconnus du grand public ou du public qui s'intéresse à la vulgarisation, vous avez déjà lu leurs livres, vous arrivez dans leur laboratoire ou chez eux, vous avez déjà lu plutôt l'essentiel de leurs livres. Comment ça se passe là? Vous les rencontrez dans votre livre, dans votre enquête, vous les décrivez. J'ai trouvé ça admirable. Oui. Vous décrivez le lieu, mais vous décrivez également le personnage. Bien entendu, vous parlez de sa pensée, vous parlez des livres que vous avez lus de ces personnages, mais vous faites de cette rencontre physique que vous avez avec eux, vous le décrivez. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement émouvant, notamment pour Pierre-Marie Liédot.
Bah parce qu'il nous a particulièrement bluffé, parce que c'est effectivement quelqu'un d'une très très grande envergure intellectuelle. Au moment où nous l'avons rencontré, c'était donc il y a un peu plus d'un an, il n'avait pas encore publié le livre qu'il vient de publier en collaboration avec Jean-Didier Vincent, pour lequel il a une grande admiration, et c'est réciproque, je crois. Et il vient donc de publier un livre qui s'appelle, Pierre-Marie Liédot vient de publier un livre qui s'appelle « Le cerveau sur mesure ». Et donc, à l'époque, nous avions eu envie de le rencontrer parce qu'effectivement, c'est lui qui mène ses recherches sur, au fond, la possible, une idée tout à fait incroyable, c'est-à-dire on a vécu pendant des siècles avec l'idée que les neurones sont bien, comment dire, se perdent inexorablement à partir du moment où on est, on commence à, voilà, à perdre nos neurones et qu'ils ne sont pas régénérables. Or, Pierre Marliédon commence, il est à l'orée de cette recherche, mais commence à démontrer que c'est faux. Qu'en réalité, il est possible de trouver ce qu'il lui-même appelle une fontaine de jouvence qui permettrait, dans le long terme, ce n'est qu'une recherche de vraiment qui démarre, des voies d'accès pour permettre la reformulation des neurones. Et donc, effectivement, là, vous le disiez, vous parliez des différences entre les États-Unis et la France, et bien là, il n'y en a pas. Pierre Marliédon a un discours aussi, radical que peut l'avoir Douglas Milton. Et ce n'est pas d'ailleurs par hasard, parce que tous les deux travaillent sur, effectivement, ces idées de régénération cellulaire, de reprogrammation cellulaire, dont le champ s'ouvre incroyablement. Mais je crois qu'il faut tout de suite préciser aussi, parce qu'il ne faut pas faire naître des espoirs déplacés par rapport à des gens qui auraient besoin que la science avance plus vite pour être soignée. Je crois qu'ils sont à l'orée d'une recherche qui peut être effectivement tout à fait bénéfique, mais qu'on en est encore loin. Mais en tout cas, pour ces deux hommes que vous avez cités, on en a parlé tout à l'heure, de Douglas Milton et Pierre Marliédon, ils sont passionnés par leur recherche, ils ne vivent que dans cette optique-là, et effectivement, c'est toujours très émouvant de rencontrer des gens qui ont cette puissance intellectuelle, qui ont cette passion vibrante pour la science.
Vouliez-vous intervenir, Roger Paul-Droit ?
Je voulais intervenir peut-être de façon plus générale sur les portraits, sur le fait que, bien évidemment, ces portraits ne sont pas simplement pour le pittoresque, c'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de décrire la couleur des murs ou de la blouse ou de la cravate de celui qui nous parle ou de ses cheveux, mais le fait que les savants, dans quelque discipline que ce soit, sont aussi marqués par des positions biographiques, des émotions, des partis pris, et que, bien sûr, nous lisons leurs travaux, comme vous le disiez tout à l'heure, avant d'aller les voir. Nous essayons de nous documenter pour poser les questions clés qui intéressent notre enquête. Mais en même temps, il y a quelque chose, et après tout, puisque le livre s'intitule « Humain », qui reste une rencontre humaine avec un homme ou une femme qui se trouve pris dans un travail intellectuel, scientifique, mais aussi qui est tramé dans sa biographie.
Et je pourrais peut-être rajouter une dimension qui certainement vous touchera, parce que je crois que ce qui nous a le plus, au fond, enfin il y a beaucoup de choses qui nous ont marqué, mais à travers ce voyage, c'est la dimension de la fiction. La dimension de la fiction, c'est-à-dire comment au fond tout ça ne sont que des histoires qu'on se raconte sur la science, des histoires que la science nous raconte, des histoires et de la fiction dont se nourrit la science, de la fiction dont les scientifiques eux-mêmes ont besoin pour mener à bien leurs travaux scientifiques. Une majorité d'entre eux nous a expliqué à quel point les livres de science-fiction ont été formateurs dans leur exercice, même de leur profession scientifique. Et donc, c'est cette dimension-là qui peut être, finalement, la dimension la plus humaine, ce besoin de se raconter des histoires, de fantasmer, de rêver des univers inatteignables, avec et toujours, probablement, comme en fond, cette tentation, mais qui est, comme l'a dit Roger Paul, qui n'est pas neuve, il l'a dit tout à l'heure, ce sont des vieux mythes, mais cette fois, il y a comme une sorte de condensation, il y a la tentation d'en finir avec, au fond, tous les paramètres de l'homme conçu classiquement, c'est-à-dire en finir avec la finitude, en finir avec le temps, suspendre le temps pour vivre dans un temps, un présent permanent, en finir avec le hasard, tenter la maîtrise totale, et tout ça travaille en même temps. Donc il y a effectivement des résultats de recherche, des promesses de recherche et aussi une grande dimension de fiction.
Exactement, c'est ce que j'avais relevé dans votre conclusion. Et je suis très heureux que vous en parlez là. Du coup, j'arrive directement à ce point-là. Je vais vous citer, page 520, donc on est dans la conclusion, je vous cite. « Finalement, qu'on se raconte des histoires de continuité ou de rupture, il s'agit toujours de mesurer à quel point le propre de l'humain, en fin de compte, est de tisser des histoires, tramer des récits, coudre sans cesse l'interminable patchwork de la fiction. » C'est bien ce qui nous distingue de tous les autres vivants. Cet ancrage dans la fiction est essentiel. Inventer des histoires est vital pour ce que nous sommes. Pas d'humain sans mythe, fable, récit, narration, comme autant de manières d'assembler les événements, de leur donner sens, d'avoir prise sur le monde. Et quelques lignes plus tard, je lis « Il est trop court de vouloir opposer la rigueur de la logique et les chimères de l'imagination. Il faut réviser nos cartes mentales, cesser de ranger l'imaginaire d'un côté et la rationalité scientifique de l'autre. » D'une part le fantasme et d'autre part le savoir. En fait, le fantasme se tient aussi au cœur du savoir. Ce ne sont pas des corps étrangers l'un à l'autre. Et dans une moitié de votre livre, vous essayez, enfin en tout cas vous interviewez des philosophes sur cette, et des savants sur cette distinction entre l'humanité, l'animalité, entre ce qui est inerte et ce qui est vivant, mais à aucun moment j'ai senti que, oui, le propre de l'homme, c'est de fabriquer de la fiction.
Je crois que la fiction, elle est liée même à toutes les projets scientifiques. Parce que il n'y a pas, c'est ce que vous venez de lire, il n'y a pas d'un côté le mythe, de l'autre la rationalité. Il y a bien évidemment... La grande différence, c'est Valérie, je crois, qui disait que un mythe meurt d'un peu de précision. Voilà, et simplement, lorsqu'on met à l'épreuve de la réalité, des expériences et des mesures, la rêverie, il y a de la perte. Simplement, la rêverie, au départ, elle est motrice de la recherche scientifique elle-même. D'ailleurs, je crois que beaucoup de scientifiques le disent. D'abord, ils sont dans l'intuition ou le rêve ou la fantasmagorie, et ça n'est qu'ensuite, il faut mettre tout cela à l'épreuve de la vérification, de l'expérience. Et bien évidemment, c'est ça qui différencie un pur fantasme d'une rêverie scientifique, c'est ce passage à la rigueur. Mais je crois qu'on pourrait aussi, si vous voulez, ajouter que ce que nous appelons humanisme décentré, c'est bien évidemment la perte d'arrogance et de centralité de l'humain, mais c'est aussi le fait qu'il ne faut pas perdre de vue la spécificité humaine. Or, cette spécificité, quelle que soit la manière dont on la retourne, et la tourne de tous les côtés, in fine, il nous semble bien qu'elle est dans le rapport à la langue, à l'imaginaire, à la construction de récits, et donc à la fiction, qui peut être liée évidemment à l'esprit critique et à la dimension rationnelle, mais c'est de ce côté-là que les choses se passent, et on peut toujours nous rapprocher autant que l'on voudra des bonobos pour lesquels j'ai le plus grand respect, il n'y a pas de littérature chez les bonobos.
Effectivement. Et alors, il y a quelque chose, quand je suis arrivé à votre conclusion, une réflexion que je me suis faite, puisque vous avez beaucoup parlé de décentrement de l'homme, et effectivement, votre livre montre bien que dans nos représentations actuelles, l'homme est presque une intensité maximale de décentrement. Vous n'avez pas interviewé d'exobiologistes. Dans cette représentation de l'humain, vous n'avez pas parlé de l'extraterrestre, de la possibilité d'une vie extraterrestre. Vous n'avez pas creusé dans cette voie-là et vous n'avez pas interviewé d'exobiologistes. Pourquoi ?
Écoutez, parce que ce que nous étions donné comme fil directeur, ça ne veut pas dire que la question n'est pas en soi extrêmement intéressante et importante, et même elle a ses, de vieilles lettres de noblesse philosophique à travers Fontenelle, les entretiens sur la pluralité des mondes et bien d'autres. Mais la question pour nous était, qu'est-ce que les avancées scientifiques et les mutations technologiques d'aujourd'hui changent dans la représentation de l'humain? Et du coup, les extra-humains sont importants, mais de façon finalement indirecte par rapport à ce qu'était le... Cette enquête est déjà d'ailleurs assez grosse. Voilà.
Monique Atlan.
Non, mais je rejoins Roger Paul. Je crois que qui trop embrasse mal étreint. Et effectivement, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de questions qui se posaient. Et encore une fois, c'est non pas ce qui dépasserait l'humain ou qui serait autre que l'humain qui nous intéresse, mais bien ce qui, tout en étant retravaillé, confirmerait l'humain dans ce que la représentation qu'on pourrait s'en faire ou qu'il faudra reformuler. Et effectivement, vous avez raison, ça sera l'objet du prochain tome.
J'en serais ravi. Finalement, à cette idée d'homme nouveau, vous n'y croyez pas, vous la resituez dans l'histoire de l'humanité, vous en faites une quasi-chimère, et du corps, vous vous attachez davantage aux modifications de nos représentations qui, elles, pour vous, au contraire, sont réelles, ces modifications de représentation. Ma question est donc, avez-vous réalisé cette enquête remarquable pour vous rassurer sur ce sujet-là?
Non, je crois que nous ne cherchions ni à nous rassurer par avance, ni à nous inquiéter artificiellement. Nous cherchions à véritablement essayer de comprendre quelles étaient les grandes lignes de force, les grands enjeux. Si le titre de livre des mutations n'était pas déjà pris par le Yi Qing, il aurait presque pu convenir à celui-là. C'est-à-dire que, bien évidemment, chacun des dossiers pris à part, qu'il s'agisse des sciences cognitives, de l'exploration du cerveau, de l'imagerie cérébrale, de la mondialisation aussi, on a consacré tout un chapitre à la question de l'exclusion et des exclus. Toutes ces questions sont chacune déjà explorées ou connues. Ce qui nous intéressait, c'était de les mettre ensemble, de les relier, et de les relier à ce qui, à nos yeux, les traverse toutes, c'est-à-dire cette question des représentations de l'humain qui sont véritablement travaillés et retravaillés aujourd'hui, avec aussi, si vous voulez, cette idée que je crois que la philosophie a délaissé la réflexion sur l'humain avec de bons motifs qui étaient les critiques de l'humanisme, critiques radicales menées de bords divers aussi bien par Heidegger que par Michel Foucault, qui ont eu l'intérêt de défaire de faux-semblants, voire de débarrasser le terrain ou la pensée de choses qui étaient trop simples, mais qui ont eu aussi l'inconvénient, finalement, de faire que la question d'une réflexion sur les bornes et les limites de ce qui définit l'humain a été laissée, finalement, soit à d'autres qu'aux philosophes, soit complètement abandonnée.
Comme on le dit, on cite à la fin, et ça n'est pas programmatique, mais je trouve que cette citation est quand même très belle, c'est cette citation du philosophe Emmanuel Lévinas qui dit « L'humain est au-dessus des forces humaines ». Et effectivement, ce sont quand même des questions qui traversent les interrogations contemporaines. Quels sont nos objectifs en tant qu'humains? Que pouvons-nous faire de notre humanité? Quelle orientation lui donner? Alors, à partir de là, on pourrait avoir soit une lecture pessimiste de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais, ou effectivement, être passionné, curieux et intéressé de voir combien à chaque fois les ébauches sont défaites et retravaillées, combien effectivement il y a une sorte d'idéal qu'on ne pourra pas atteindre, mais que tout ça est en travail permanent et que ça vaut le coup de revisiter ces questions de temps à autre.
Eh bien, je vous remercie infiniment, Monique Atlan, Roger Paul Droit, merci d'avoir été avec moi en direct par téléphone pour vous parler de votre livre qui est remarquable, Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Au revoir. Merci.